Tu veux générer des demandes entrantes en continu et gagner enfin en prédictibilité sur ton chiffre d'affaires ? Alors, je t'invite à découvrir la stratégie adaptée à ton business, et ça en quelques clics, grâce à ce quiz que nous avons créé spécialement pour que tu puisses enfin savoir sur quel levier t'appuyer pour y arriver. Pour ça, il te suffit de te rendre sur paulinesarda.fr/quiz. En répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr/quiz. Q-U-I-Z. Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute.
On est dans un point de vue super binaire, quoi qu'il arrive, t'es soit niché, soit pas niché. Si t'es pas niché, tu veux pas réussir. Si t'es bon partout, t'es bon nulle part.
Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. J'ai le plaisir de recevoir Juliette Cadeau sur un sujet que j'ai déjà abordé sur Vision. C'est l'épisode « Se nicher, bonne ou mauvaise idée ». Mais ici, avec Juliette, on va prendre le problème un petit peu à l'envers puisqu'on va aborder ton parcours et justement ta réussite, toi, en tant qu'entrepreneur, je vais mettre des guillemets généralistes. Mais ouais. Avant de pouvoir en dire plus et d'aller plus loin, je te laisse nous dire qui tu es, Juliette.
Déjà, Pauline, un grand merci à toi pour cette invitation. Je vais te parler aujourd'hui. Donc moi, je suis Juliette Cadeau. Je suis à la tête de mon agence de communication qui s'appelle Cadeau parce que quand on a un nom comme ça, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, moi, je suis à la tête d'une communication digitale axée sur le contenu. Donc, on aurait tendance, certains diront que je suis nichée parce que je ne fais que du contenu, d'autres diront que je ne le suis pas puisqu'on fait à la fois du LinkedIn, de la newsletter, Insta, TikTok, blog, etc. Donc voilà, moi, mon rôle, en fait, c'est d'aider les entreprises à prendre la parole et à le faire bien en utilisant le pouvoir du contenu sur Internet.
Ok, super. Merci Juliette. Je pense que justement, on pourra échanger sur est-ce que c'est niché ou pas, que le contenu, etc.
Ouais.
Voilà, gros sujet, mais de toute façon, c'est le sujet de l'épisode. Si je t'ai fait venir, en tout cas sur Vision, pour cet échange, c'est parce que je t'ai déjà entendu parler du sujet de la niche et il me semble que tu as un avis assez tranché. Donc, j'ai envie qu'on décrypte aussi un petit peu ta réussite à toi, parce qu'on entend souvent beaucoup que, entre guillemets, je grossis le truc, mais sans niche, tu ne peux pas réussir, etc. Donc, j'aimerais bien aussi prouver le contraire avec ton parcours. Et puis aussi qu'on puisse partager sur ce sujet, parce que moi, j'ai un avis un peu plus nuancé. Je suis ni contre ni pour, mais voilà, on va être amené à en discuter. Du coup, moi, la première question que j'ai envie de te poser, Juliette, tout simplement, depuis quand tu es entrepreneur et comment tu as commencé ? En gros, c'était quoi ton positionnement de départ ?
Alors, moi, je suis entrepreneur depuis 5 ans. Ça fera, là, on est mi-janvier. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire, donner le secret de fabrication.
Tu peux.
On enregistre. On est mi-janvier. Dans 2 semaines, ça fera 5 ans que je suis indépendante. Donc, j'ai lancé ma première boîte en tant que micro-entreprise le 29 janvier 2019. Et ça fait un an que je suis à la tête de mon, enfin un peu plus d'un an que je suis à la tête de mon agence. Donc, j'ai fait 4 ans de micro-entreprise. Et puis là, ça fait un petit peu plus d'un an, enfin, presque 3 ans et demi, 4 ans, voilà, si on veut jouer sur les mots. Et un peu plus d'un an que je suis sur ma SARL, donc pour mon agence. Et comment eh ben moi, je me suis lancée par hasard parce qu'en fait, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneuse. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours revendiqué. Je l'ai toujours, jamais sans être pédante ou autre. C'est juste que j'ai un petit problème d'autorité en général, que je suis quelqu'un de très indépendant. Qui suis quelqu'un de très indépendant depuis l'enfance. Et du coup, j'ai toujours dit, moi, je ne pourrais pas être salariée toute ma vie. Un jour, j'aurai mon propre truc. Sauf qu'en fait, j'ai jamais eu les couilles de me lancer. J'ai jamais eu. Et en plus, n'ayant jamais fait d'école de commerce ou d'école de communication ou de marketing, je faisais pas, et n'ayant pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont entrepreneurs, même pas du tout. En fait, j'ai des professions libérales, mais pas des entrepreneurs comme au sens où on l'entend monter une entreprise, etc. Pour moi, quand tu devais être entrepreneur, c'est parce que tu avais la bonne idée. Et du coup, en fait, je pensais, voilà, tu vois, à créer un magazine, à créer un truc, etc. En fait, déjà dans le B2C, premièrement. Et deuxièmement, en fait, j'étais persuadée que pour être entrepreneur, il fallait avoir the bonne idée et pas que les services, alors que la France est un pays de services, hein, quand tu regardes les chiffres de l'INSEE sur les entreprises, etc. Je ne pensais pas qu'en fait, ça pouvait être une entreprise. Et du coup, je me suis lancée par hasard parce que je me suis fait virer un peu du jour au lendemain dans l'agence dans laquelle je travaillais avant. Et d'ailleurs, ça a été assez violent sur le moment. Mais maintenant, je les remercie parce qu'en fait, sans ça, je me serais jamais lancée. Et donc, en fait, je me suis lancée pour pouvoir, en fait, avoir un boulot. Tout simplement parce que quand je me suis fait virer du jour au lendemain, j'ai pas eu le temps de chercher un poste. Ce qui s'est passé, c'est qu'heureusement que ça a été fait de cette manière un peu violente, parce que je pense que si jamais j'avais continué comme ça, j'aurais cherché à nouveau un poste dans une agence dans la com, etc. Parce que ça faisait 2 ans que j'avais commencé ma carrière dans la com à ce moment-là. Et en fait, j'aurais continué jusqu'à temps que j'en puisse plus. Donc finalement, je me suis lancée par hasard, mais ça a été je pense, un bon coup de pied au cul de la part du destin.
Oh waouh, mais tu sais que c'est un truc de dingue parce que, donc pour les personnes qui nous écoutent, sachez qu'avec Juliette, on se connaît quand même plutôt bien puisque Juliette est passée par notre programme d'accompagnement le 3-6. Et c'est marrant parce que je connaissais quand même une partie de ton parcours, mais j'avais pas tout ça. Et c'est assez dingue, tous les points communs qu'on a, Juliette. Puisque moi, pareil, je me suis fait virer 3 fois dans le salariat. La dernière fois, je me posais des questions. Enfin bref, c'est assez fou tous les points communs qu'on a sur le parcours. Je n'ai pas fait d'école de commerce non plus. Donc c'est assez marrant là-dessus. Juste rebondir, je n'avais pas prévu, mais est-ce que tu as identifié ou est-ce que tu sais pourquoi tu as été virée la dernière fois?
Ah bien sûr, ah oui, non mais évidemment, j'en ai parlé pas mal de fois dans ma communication, mais en fait ça a été un mélange de pas mal de choses. Déjà, il y a eu un rachat du groupe. Tu sais que quand ça se passe, les contextes de rachat, t'as toujours pas mal de personnes qui partent, etc. Parce que les personnes qui rachètent, bah, veulent faire leur équipe à leur image, etc. Il y a eu aussi certaines mésententes, dans le sens où on m'avait promis une augmentation qui n'est finalement jamais venue. Donc j'ai commencé à être une gêne à un moment parce que je ne suis pas trop du genre à me laisser faire. Donc évidemment, il y a eu ça. Voilà, il y a eu pas mal d'incompatibilité, pardon, plus un contexte de rachat, etc., etc. Donc finalement, tout ça mis de bout en bout, ça a été assez rapide de se dire que cadeau, on dégage.
Et donc tu disais, on va revenir un petit peu sur tes débuts quand tu t'es lancé. Tout de suite, tu proposais de la communication 360 ou t'étais tu proposais plutôt sur la partie contenu. En gros, qu'est-ce que tu
Alors non.
proposais et à quel type de client, tu vois?
Alors en fait, j'étais vachement sur... quand en gros, ce qui s'est passé moi dans ma carrière, c'est que donc ça faisait 2 ans que j'étais dans le contexte de la com, mais avant ça, j'étais journaliste web pendant 3 ans. Et du coup, j'étais sur des contenus écrits essentiellement en fait. Donc je proposais du content management, mais surtout axé sur articles de blog, etc., contenu écrit pour les réseaux sociaux, copywriting pour des sites, etc., etc. Donc j'étais déjà plus nichée que maintenant en fait finalement. Et c'est au fur et à mesure de me découvrir de nouvelles compétences et d'en réapprendre de nouvelles, etc., que j'ai compris que, bah déjà, en plus, on va en parler là-dessus, mais moi, c'est parce que je suis quelqu'un de polyvalent de nature, je m'intéresse à plein de choses différentes. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai commencé à proposer de plus en plus de choses, et aussi parce qu'on me les a proposées, c'est-à-dire qu'on m'a demandé, Juliette, est-ce que tu as déjà fait des stratégies éditoriales? Et oui, un petit peu quand j'étais en agence, ok, mais j'ai besoin que tu m'en fasses une, parce que la personne me faisait confiance déjà, qu'on avait eu un bon contact, tu vois, au téléphone, etc., parce que là où je n'ai pas fait d'école de commerce ni de marketing, etc., j'ai un unfair advantage qui est avoir un sens du relationnel naturel très facile. Et du coup, je noue des liens très facilement. Je suis assez bonne vendeuse naturellement, même si maintenant j'ai réappris aussi pour l'être encore plus. Parce que de toute façon, pour moi, on élève toute sa vie hein, dans tous les cas. Et du coup, j'ai quand même réappris d'autres choses. Et voilà, en fait, grâce à mon sens du relationnel, la personne, elle voulait bosser avec moi, avec personne d'autre, même si je n'avais pas forcément tout le background académique que 2 ans d'expérience dans la com à ce moment-là, même si 5 ans en tout, parce que j'étais quand même journaliste avant. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à proposer de nouvelles choses, en fait. Mais moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup en général. Je suis hyperactive. Et en plus, je crois fort au pouvoir de l'agilité. Et je trouve que c'est l'immobilisme qui est dangereux. Je trouve ça c'est une opinion personnelle, mais je trouve que c'est un adage que je sors souvent, c'est que pour moi, l'avenir appartient à ceux qui savent s'adapter. pas à ceux qui restent sur le bas-côté en se disant ouais, c'était mieux avant, ouais, mais moi je sais pas faire ça, etc. etc. Je pense que on peut toujours tout apprendre. Alors évidemment, dans le contexte de nos métiers, je te parle pas de devenir neurochirurgien du jour au lendemain sans
Ouais,
diplôme,
on est
mais
d'accord.
dans le contexte de l'entrepreneuriat web, tu as de quoi faire.
C'est clair. Et du coup, comment t'as eu tes premiers clients? Parce qu'il me semble que tu communiquais pas des masses au début, si? Ouais.
Du tout, j'ai commencé à communiquer, ça faisait 3 ans que mon entreprise existait. Donc, j'ai créé mon entreprise en janvier 2019, j'ai commencé à communiquer en janvier 2022, donc 3 ans après. Comment j'ai mis mes clients? Très simplement, soit c'était des anciens clients de l'agence avec lesquels j'avais déjà bossé et qui n'avaient plus besoin de l'accompagnement holistique de l'agence dans laquelle j'étais, hein, pas de la mienne. Hein. Parce qu'à l'époque, j'étais en micro-entreprise, donc moi, j'associe micro-entreprise. Je sais que certains identifient freelance sans être en micro-entreprise. Procès, c'est pas un problème. pour le coup, non, en gros, donc c'était soit des anciens clients de l'agence dans laquelle je bossais avant qui n'avaient plus besoin d'un accompagnement de l'agence en entier, qui avaient juste besoin, par exemple, de rédaction sur des sujets, etc. J'ai beaucoup avec Malte aussi, et j'ai
Ouais.
beaucoup marché aussi avec le bouche à oreille, parce qu'en fait, et encore une fois, l'avantage du bon sens du relationnel, c'est que j'avais des envies de la part d'anciens collègues, etc., etc., quoi.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à publier sur LinkedIn du coup? Bah, je dis LinkedIn, mais
Juste,
pour les réseaux sociaux, tu vois. Ouais.
j'ai commencé par LinkedIn, donc c'est tout à fait juste. En gros, bah, c'est simplement mon plus gros client qui a décidé d'internaliser, entre guillemets, le poste que j'occupais, parce qu'en fait, à cette époque-là, je devais bosser, et je peux les citer d'ailleurs, hein, c'était je bossais avec BNP Paribas Real Estate depuis 2 ans, et à
OK.
la base, ça devait être une maison de 3 mois. Donc en fait, à force d'avoir quelqu'un en free depuis 2 ans à plusieurs jours par semaine, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un vrai besoin en fait sur le long cours pour l'entreprise. Donc ça revient, c'est plus rentable pour l'entreprise d'avoir quelqu'un d'extérieur que tu payes à la journée, et vaut mieux internaliser dans ces cas-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc on s'est quittés bons amis, etc. Et moi, du coup, je me suis retrouvée un petit peu quand même au pied du mur, parce que à ce moment-là, bah, c'était mon plus gros client. Donc et c'est peut-être après, voilà, là-dessus, attention à faire une petite leçon peut-être là-dessus quand vous êtes free, de pas avoir qu'un seul gros client, c'est compliqué,
Ouais.
parce que s'il s'en va du jour au lendemain pour relancer la machine, c'est pas facile. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Donc 60%, voire 70%, très honnêtement, de mon chiffre d'affaires mensuel qui s'en va. Donc je me retrouve un peu au pied du mur. J'avais pas forcément de demande entrante à ce moment-là en termes de stratégie, etc. Parce que là, c'était de la mission de gestion de projet éditorial.
OK.
Donc c'était de la mission au long cours, alors que tu vois, les strates, bah, ça vient en fonction de quand les clients ont besoin, etc., quand ils sont
Ouais.
pitchés, quand il y a des appels d'offres, etc., etc. Et du coup, là, j'avais rien. Donc je me suis dit, merde alors. Donc j'ai commencé à publier sur LinkedIn comme ça. Et en fait, j'ai vu passer un post de Thibault Louis, et c'est d'ailleurs grâce à lui que je me suis lancée, grâce à ses posts, mais aussi grâce à des discussions en message privé, où en fait, j'ai vu un post où il disait, oui, si vous êtes sur LinkedIn et que vous êtes en B2B, si vous dites pas que vous existez, vous n'existez pas. Donc en fait, effectivement, c'est tout simplement montrer que tu existes, en fait, et d'arrêter de penser que tout le monde va venir vers toi.
Et est-ce que à ce moment-là, du coup, tu t'es posé la question, parce que ne serait-ce qu'en termes de stratégie éditoriale, de comment t'allais te positionner, ou vraiment t'es allé en mode je vais parler dans tous les cas de tout ce que je sais faire, sans vraiment prendre un prisme particulier en termes édito pour justement te détacher peut-être du reste, quoi.
Non, j'ai quand même fait une petite strat, parce que je reste quand même, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, hein, donc j'ai quand même le background stratégique, en fait, parce qu'à ce moment-là, ça faisait, j'avais beaucoup accéléré mes offres sur la stratégie dans mes missions, et en fait, j'en faisais très souvent. Donc, en fait, j'ai commencé à vraiment m'y mettre, même pour moi, et donc j'ai fait une petite strat, voilà, de savoir ce que je cherchais avec LinkedIn, qui est-ce que je voulais attirer, quel type de poste j'allais aborder, etc. Mais après, ça a été beaucoup aussi de test and learn, en fait, voilà, de voir comment ça fonctionne, me former, dans le sens où j'ai pas pris de formation, mais j'ai regardé, ah, quoique, j'ai dû acheter un manuel LinkedIn ou un truc comme ça, tu vois, un truc,
Pour démarrer.
voilà. Oui, voilà. Mais voilà, juste aussi relire des posts sur comment fonctionne l'algorithme, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, voir, tester, etc. Tu vois, mais j'ai aussi un autre unfair advantage, mais la meuf se vante incroyablement, mais c'est que j'apprends vite.
Ouais,
C'est
mais t'as raison.
Ouais, quand ça m'intéresse, j'apprends très vite. J'ai jamais été capable de retenir une seule formule de maths, ni comment les appliquer, pendant toute ma scolarité. En revanche, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, en fait, j'apprends assez rapidement, j'emmagasine rapidement les informations. Donc, ça m'a permis, en fait, de rapidement prendre le pli, tout en sachant aussi que je partais quand même avec une longueur d'avance, c'est que je sais écrire.
Ouais.
J'écris depuis que je suis gosse et surtout j'écrivais de manière professionnelle depuis donc là on est en 2022, j'ai commencé ma carrière en 2014, je vous laisse faire le calcul, rappel, je suis nulle en maths.
Oui, donc dans tous les cas, évidemment, c'était quelque chose que tu savais faire. Donc, bien entendu, tu partais pas
Voilà.
de zéro en termes de connaissances, en termes d'expérience. Ça, c'est certain. Et aujourd'hui, si on fait le récap un petit peu de ce que tu proposes, tu as de la prestation en consulting, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait. Alors, je vais te. En gros, j'ai fait un point en plus parce que je suis en train de me former à la strat, à la prospection, pardon, parce que la strat, ça va, je maîtrise.
Oui.
Alors, en fait, par rapport à tout ça, moi, je fais à la fois de la conception de stratégie, en fait. Donc là,
Ouais.
c'est pour les personnes qui veulent se lancer ou relancer sur un support donné digital, mais qui savent pas ni comment ni par quel bout prendre en fait le contenu, tout simplement parce que bah on est un peu comme ça, un peu perdu. Donc stratégie, quoi, création de contenu, ça c'est pour les personnes qui souhaitent non seulement déléguer leur stratégie, mais aussi qui ne souhaitent pas créer leur propre contenu ou qui n'ont pas le temps ou pas les compétences. Donc ça,
Ouais.
deuxième. Donc ça c'est plutôt mes équipes. Hein. La strat, c'est encore
Ouais.
moi, quoique je suis en train de plus en plus la déléguer, mais la création de contenu, en tout cas, ce sont mes équipes. Ensuite, je fais aussi du coaching pour les dirigeants. Donc ça, c'est plutôt soit pour les dirigeants, soit pour les solopreneurs qui ont besoin en fait de développer leur personal branding. Donc ça, c'est du suivi en one-to-one où du coup, je m'occupe d'une personne et en fait, on revoit, ça, on fait sa stratégie en co-construction. Bah, à la place de la faire entièrement pour lui, on la fait en co-construction. On se voit entre, il y en a certains que je vois toutes les semaines, donc je vois toutes les 2 semaines, d'autres que je vois tous les mois, d'autres tous les 3 mois. En fait, voilà, on se fait des points réguliers pour échanger sur leur avancée, sur leur publication, leur personal branding, etc., voir s'ils atteignent leurs objectifs, etc. Donc ça, c'est pour la partie coaching. Et justement, j'ai la partie consulting aussi, où c'est là où le coaching, c'est au long cours, le consulting, c'est un one shot. C'est une grosse question, un problème, un blocage. En 1 heure, on le règle. Je t'envoie un questionnaire, je le prépare et pendant 1 heure, on échange. Et comme ça, c'est censé te débloquer en seulement 1 heure. Et enfin, je donne aussi des formations, beaucoup, puisque je suis quelqu'un d'assez pédagogue et que j'aime ça, j'aime beaucoup partager. Donc, je donne des formations aussi auprès d'entreprises ou de solopreneurs, etc.
Ok, donc en gros, on va dire 4 à 5 offres, on va dire. Je vais grossir le truc, mais c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse là de savoir, c'est est-ce que tu sais s'il y en a une qui se détache plus que les autres? Est-ce qu'il y en a une qu'on te demande plus que d'autres?
Ça dépend très honnêtement parce que ça dépend des périodes. Il y a eu des périodes avec beaucoup, beaucoup de coaching. Et d'ailleurs, je suis dans une période avec pas mal de coaching en ce moment. J'ai eu
Ouais.
des périodes avec pas mal de strates. Là, j'ai signé beaucoup de strates là en peu de temps aussi. Voilà, franchement, très honnêtement, c'est assez équivalent. Celle que je vends le moins, c'est plutôt le consulting, mais c'est parce que je la mets moins en avant aussi. Ouais, non, très honnêtement, ça se vaut. Ça se vaut parce qu'en fait, le contenu, en fait, et c'est pour ça que j'ai pas de persona précis dans le sens où je vais pas avoir un persona en te disant il est à la tête de cette boîte-là, de cette tête-il de boîte, à la tête de X personnes,
Ouais.
etc. En fait, moi, j'ai pris le persona à l'envers, c'est-à-dire que je me base sur un point de douleur ou un besoin de la cible. Et du coup, c'est pour ça que dans mes clients, j'ai à la fois des solopreneurs comme des groupes cotés en bourse, en fait. Parce que tu sois solopreneur ou que tu sois un groupe coté en bourse, tu peux avoir au bout d'un moment un besoin en stratégie de communication, etc.
Ok, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, partir de la problématique, c'est juste, c'est juste. Est-ce que tu as plus de demandes vu que tu es sur la partie contenu? Ou stratégie de contenu, stratégie édito, est-ce que tu as plus de demandes sur LinkedIn ou pas?
Ah, bien
C'est-à-dire,
sûr. Ça,
alors,
pour le... Ouais, dis-moi.
quand je dis sur LinkedIn, je veux dire, oui, j'imagine qu'une grande majorité de tes demandes entrantes arrivent de LinkedIn,
Ah
très
d'accord, oui, pardon.
probablement, mais est-ce qu'on te demande vraiment de les accompagner, personal branding sur LinkedIn, etc., ou pas forcément?
Non, alors, non, pas forcément, très honnêtement. Hein. J'ai de tout. Il y a beaucoup de LinkedIn, évidemment, puisque moi, c'est ma plus grosse vitrine, hein, LinkedIn. Enfin, c'est pas là où j'ai le plus de followers sur tous mes réseaux, mais c'est la vitrine la plus intéressante pour moi, donc celle que je peaufine le plus aussi. Mais non, non, j'ai aussi de la newsletter, j'ai aussi des gens qui me demandent pour TikTok, Insta, j'ai aussi de la demande voilà, sur du copywriting de site, etc., etc. Donc non, non, pour le coup, c'est tout support. Et là, c'est ce que je mets en avant aussi parce que Encore une fois, je trouve que c'est faut faire attention à ne pas te mettre tous ses œufs dans le même panier en fait et savoir être agile parce que moi je suis quelqu'un de c'est peut-être on en parlera peut-être mais c'est parce que je suis quelqu'un d'anxieux aussi de
Ouais.
nature et je me dis imagine demain tout ça s'arrête et t'as misé que sur un seul cheval.
Ah, et
C'est un
c'est
peu
ça. Tu penses que c'est
Ouais.
ça aussi? Tu parlais tout à l'heure de polyvalence, le fait que tu étais polyvalente, que tu aimais faire plusieurs
Ouais.
choses, etc. Mais tu penses aussi que peut-être indirectement, ça vient pallier une peur de bah, si jamais il y a un problème, au moins je sais faire plein de choses.
Bien sûr, évidemment. Non, mais attends, je vais te dire un truc, Pauline. Tu veux savoir un truc important? C'est qu'il y a des fois où je me pose la question de, et si un jour plus personne n'avait jamais besoin de communication, si jamais la communication s'arrêtait un jour, vraiment, j'en suis à ce
Voilà,
point-là,
tu
tu
pars
vois.
loin là.
Non, je te jure. Voilà, c'est, elle va jusqu'à là, mon anxiété, t'imagines? Donc, non, évidemment, oui. Je pense qu'il y a, c'est pas forcément conscient et je le fais pas dans la peur parce que je le
Non,
fais
bien
parce que je
sûr.
kiffe aussi les autres outils. J'adore les newsletters, j'adore TikTok aussi, j'adore Insta, tu vois, voilà. Mais, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Je pense que de toute façon, les polyvalents nés, on le fait aussi parce que parfois, tu as aussi cette envie de se diversifier, de pouvoir mieux rebondir peut-être, je sais pas,
Ouais.
en cas de coulure.
Mais de toute façon, ça me parle un petit peu ce que tu dis parce que même si moi, je pense que tu le sais et les gens qui nous écoutent normalement le savent, mais moi j'ai commencé, j'étais vraiment nichée sur LinkedIn, donc j'étais spécialiste LinkedIn et puis après je me suis élargie. Et si je me suis élargie, c'est un parce que bon, déjà j'avais pas envie de faire que du LinkedIn, ça commençait à me faire chier de faire que ça. Et en plus de ça, effectivement, moi aussi j'avais ce truc de j'ai pas envie. De faire toute ma life ça et en plus de ça j'ai pas envie que si un jour LinkedIn il y a un, je sais pas, il y a un truc tu vois ça se crache je fais comment tu vois concrètement donc en fait on a eu quelque part un petit peu le même même si moi au départ j'étais nichée mais justement je pense qu'on va aller sur le fameux sujet le fait que tu fais c'est pas nichée mais tu es spécialisée en tout cas sur le contenu on peut le dire ça comme ça
Bien sûr.
qu'est-ce qui fait selon toi que tes clients viennent te voir, pardon, toi et pas une autre entreprise. Au-delà du personal branding.
Bah, je me demande si c'est pas aussi le côté polyvalent. Je me demande aussi si c'est pas
OK.
ce côté-là, parce qu'en fait, ça montre aussi une certaine appétence pour le digital en entier, la stratégie en entier. Je trouve ça. Je ne critiquerai pas les gens qui sont uniquement nichés sur LinkedIn ou sur les autres. En fait, moi, je ne suis pas contre la niche. Je suis contre les discours qui sont pro-niche. Parce que je trouve que c'est dangereux. Et parce que ça fait des dégâts. Parce que moi, j'ai eu des. On en parlera après, hein. Mais j'ai eu des gens au téléphone qui me disaient, mais je ne sais pas quoi faire pour mon entreprise parce que tout le monde dit qu'il faut se nicher, mais moi, je ne veux pas me nicher. Du coup, j'ai l'impression que je ne vais jamais réussir. Et c'est ça, en fait, moi, qui me saoule profondément. C'est en fait ces discours alarmistes disant qu'en fait, si tu ne te niches pas, tu ne réussiras pas. Donc on en parlera juste après. Mais effectivement, moi je pense que les gens viennent me voir au-delà du personal branding, bah aussi pour la, bah déjà donc pour le côté polyvalent parce que je pense que quand tu montres que t'intéresses au digital de manière holistique, tu sais que tu montres que tu es agile et qu'en fait la personne tu peux l'emmener plus loin parce qu'il y a des personnes qui au départ se lancent sur LinkedIn et qui après veulent développer d'autres choses. Hein. Moi ça a été mon cas. J'ai d'abord lancé LinkedIn, ensuite j'ai lancé ma newsletter. Et
Ouais.
après, j'ai lancé TikTok et Instagram pour ma propre communication. Donc, il y a premièrement ça. Le background aussi, parce que j'ai des grandes entreprises sur mes clients ou sur mes expériences passées, bien évidemment. Et peut-être aussi le côté autodidacte, je pense que ça intéresse aussi parce que je suis quelqu'un de complètement transparent là-dessus. Ou si on me, bah, maintenant, on me le demande plus parce que j'ai commencé ma carrière à 21 ans. Donc, j'ai 31 ans. J'ai 10 ans de carrière derrière moi. Donc, évidemment, on ne me demande plus. Mais parfois, donc là, oui, tu me diras que ça rejoint peut-être le personal branding et donc je réponds à côté. Je sais que ça peut attirer aussi le fait de parler du fait que ouvertement que je suis complètement autodidacte et que c'est un non-sujet pour moi parce que c'est à partir du moment où tu fais une faiblesse, que là, les gens le perçoivent comme ça.
Ouais, complètement. Et quand tu as démarré ta communication sur LinkedIn, donc que tu étais, je vais remettre des guillemets, généraliste assumé sur le contenu, mais généraliste assumé, tu fais plein de choses, etc. Est-ce que tu te souviens à partir de combien de temps tu as eu des clients, des demandes entrantes via LinkedIn? Vraiment
Deux
bien
mois.
qualifiés, évidemment. Combien?
Premier prospect qualifié sur LinkedIn, premier client signé, je l'ai signé rapidement. J'aurais pas dû. Alors, c'est pas que j'aurais pas dû, mais ça s'est mal terminé parce qu'en fait, j'étais trop lisse dans ma communication. J'en ai parlé sur
Ah.
aussi, mais en fait, ça a été aussi le switch sur ma com où j'étais trop trop lisse et j'étais. En fait, il faut savoir que j'ai pas l'air comme ça, mais moi, je suis quelqu'un d'assez pudique et parler de moi était très compliqué. Et du coup, en fait, au tout début, dans ma communication, j'étais vraiment pas moi, ni dans le vocabulaire, ni dans les sujets abordés. Je n'abordais que des sujets techniques, donc sur la communication, etc., etc. Je n'ai mis des photos de moi qu'à partir de sur LinkedIn, hein, qu'à partir, je pense, j'ai commencé en janvier 2022, je crois qu'à partir du mois de décembre, 11 mois après. Où j'ai vraiment commencé à me montrer ma tronche, etc., machin. Et en fait, du coup, ces personnes-là, en fait, si j'avais été plus dans ma com, je pense qu'on aurait vu ensemble que ça n'aurait pas fité, en fait, sur la collaboration. Parce que c'était un fit humain qui n'allait pas. Il n'y avait ni de faute de leur côté, ni de la mienne. En fait, c'est juste qu'il y avait une mésentente. Voilà, il y avait une mésentente, un manque de confiance partagé, en fait. Et du coup, voilà. Mais ça a été au bout de 2 mois.
Ok, donc c'est oui, c'est allé quand même assez vite
Ouais.
pour parce que bon, on va y revenir là sur le fameux sujet parce que je suis assez d'accord avec toi là sur ce que tu as dit sur la niche. Au final, tu as quand même réussi à trouver au moins là un premier client au bout de 2 mois, alors que tu avais en tout cas à ce moment-là pas forcément eu t'étais dans ta communication a priori plutôt lisse par rapport à ce que tu fais maintenant et tu abordais plein de sujets différents, enfin plein de sujets sur la création de contenu et tu parlais pas que ou de LinkedIn, que ou Instagram, ou que ou le
Exactement.
SEO ou je ne sais quoi, enfin bref. Ok, hyper, hyper intéressant parce que moi, je pense que j'ai, enfin, je sais pas si j'ai cette croyance, mais que c'est quand même plus difficile, selon moi, et aussi les gens que j'ai accompagnés quand je faisais encore du one-one et que je faisais aussi quand même, alors j'étais très focus et vente, et ça c'est toujours le cas, mais aussi sur la création de contenu, que effectivement, si tu parles de trop de choses, la personne en face ou l'interlocuteur, la personne qui te lit, elle va quand même avoir du mal à comprendre ce que tu fais exactement. Mais j'imagine que toi, il y a quand même cette subtilité-là, c'est-à-dire que tu parlais pas non plus de tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu avais quand même une ligne édito qui était claire malgré le fait que tu proposais plusieurs choses.
Bien sûr, effectivement, et c'est là où il faut aussi différencier tes contenus de ton positionnement par rapport à ce que tu as traduit. Donc, par exemple, si tu dis ici on parle de LinkedIn, si dans ton titre de profil tu parles du fait que tu développes le contenu pour des marques, tu peux très bien parler de TikTok, Instagram, etc. Et là, les gens comprendront qu'en fait, tu fais du contenu de manière holistique, en fait. Mais c'est sûr que si à un moment tu commences effectivement à parler, si ton profil il est pas optimisé, donc on comprend pas ce que tu fais exactement, et qu'à un moment tu parles de SEA, de SEO, de TikTok, mais aussi de mailing, de prospection, etc. Là, on rame. En fait, faut pas oublier que un post sur les réseaux sociaux, il est aussi accompagné d'un profil, encore plus sur LinkedIn que sur les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur LinkedIn, quand tu postes quelque chose, à côté, au-dessus, il y a ton nom et il y a ton titre de profil qui va dire exactement ce que tu fais. Si tu dis que tu es une agence 360, etc., ce sera beaucoup plus compréhensible, par exemple, si jamais t'es une agence TikTok et que tu vois que tu fais un contenu, par exemple, je prends ça quand même parce que j'ai vu passer le post de quelqu'un qui a publié là-dessus sur LinkedIn. Le mec a fait une vidéo d'une soirée qu'il a organisée, mais il n'est pas organisateur de soirée, juste il a organisé une soirée parce que c'était pour ses créateurs TikTok, etc., etc. Tu vois, donc faut toujours relier tout en fait ensemble. Faut pas oublier que les contenus sur LinkedIn, on a l'avantage en fait qu'ils soient toujours accompagnés de notre profil en fait. Donc tu cliques pas forcément sur le profil quand tu vas passer le contenu, mais on voit ton nom et ton titre de profil qui permet en fait de voir ta claque d'un coup d'œil, ok, qui est cette personne, etc.
Moi, je différencie de toute façon, et j'en ai parlé justement sur l'épisode dont j'ai parlé en début, là, en introduction, l'épisode que j'ai fait sur Vision. Pour moi, il devrait pas y avoir d'injonction à la niche, mais je pense que là-dessus, on est d'accord, parce que c'est clair que n'écoutez pas tout le temps les gens qui vous disent qu'il faut absolument être niché pour pouvoir sortir du lot, etc. C'est une connerie. Preuve en est avec Juliette. Alors moi, je suis le contre-exemple parce que je me suis nichée, mais attention, ce n'est pas parce que moi, je me suis nichée au début que je dis à tous les entrepreneurs qu'on accompagne, il faut te nicher. Non, non,
Mais
vraiment.
c'est ça.
Non, complètement. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que selon moi, tu peux être généraliste, mais par contre, il faut travailler le positionnement. Et le positionnement, ce n'est
Exactement.
pas forcément être nichée. Et je pense que c'est ça, tu vois
C'est ça.
aussi, là, j'ai l'impression que c'est ça qui génère l'incompréhension, particulièrement auprès des entrepreneurs qui démarrent, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus. Ils entendent positionnement et derrière, ils entendent se spécialiser.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un manque de démocratisation sur les termes comme ça, effectivement. C'est ça qui va jouer aussi, où on mélange tout. Et surtout, en plus, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit les choses de manière très binaire. C'est-à-dire que je prends un exemple, tu vas avoir aussi des personnes qui vont te dire, t'es soit influenceur, soit entrepreneur. En fait, on est dans un point de vue super binaire, quoi qu'il arrive, t'es soit niché, soit pas niché. Si t'es pas niché, tu peux pas réussir. Si t'es bon partout, t'es bon nulle part.
Ouais.
Spoiler alerte, les gars. Moi, c'est un truc que j'ai toujours dit. Ce n'est pas parce que vous êtes niché que vous êtes bon. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est parce que si, dans ces cas-là, tout le monde serait niché. S'il suffisait de choisir sa niche pour être excellent comme ça du jour au lendemain, bah, tout le monde le ferait. Personne n'est
Oui.
aussi bête pour se dire, ah bah non, moi, j'ai pas envie d'être bon. Donc, non, non. Et ça, c'est un truc aussi où je vais dire, c'est que, en fait, moi, j'en ai un petit peu marre aussi de ces discours très binaires. Par exemple, si on est bon partout, on est bon nulle part. Je suis
Ouais.
navrée, mais il y a des gens qui sont bons partout. Il y a des gens, ils touchent un truc, ils sont excellents.
Ouais.
Alors qu'il y en a, ils vont toucher un truc, ils vont le faire toute leur vie et ils ne vont pas être si bons que ça. Pourquoi? Parce que la vie est injuste. Et il faut faire avec. Et
La
en
vie
fait,
est injuste.
non, mais c'est vrai.
Bah
Mais c'est
oui.
vrai, la vie n'est pas juste. Quand tu vois des gens qui sont extrêmement bons en touchant du doigt et simplement un seul truc, quand tu vois aussi. Enfin, moi, je trouve ça très dangereux d'avoir des discours binaires comme ça, parce qu'en fait, il n'y a plus de place pour la nuance. Il n'y a plus de place pour la nuance, il n'y a plus de place pour le cas par cas. Et en fait, ça crée aussi comme je te le disais, moi, je trouve que ça fait des dégâts, parce que j'ai des personnes qui vraiment, en fait, me disait, j'en ai eu pas plus tard que vendredi, quelqu'un qui me disait ouais, moi je trouve que mon offre elle n'est pas adaptée à toutes les aux différents types que je peux avoir, etc. Je fais, mais pourquoi tu fais pas plus d'offres? Et elle me dit ah, mais parce qu'en fait sinon j'en aurais plusieurs et du coup je serais plus nichée. Je fais, bah ouais, alors. Enfin, et vraiment, ça fait des dégâts. En fait, moi, c'est ça qui me saoule,
Ouais.
c'est que ça fait des dégâts. Et ces personnes-là qui vous disent ça, regardez ce qu'elles font. Parce que généralement, les personnes qui vous disent de vous nicher, elles vous vendent une formation dédiée à une niche. Donc,
Oui.
évidemment,
Ouais,
elles
bah
vont dire
oui.
qu'il faut. Donc, c'est ça aussi. C'est attention à ne pas tout prendre pour argent comptant et surtout à ne pas prendre pour argent comptant quand il y a un discours commercial derrière. Et j'en fais partie, hein. Évidemment, moi, j'utilisais mes arguments pour mes discours commerciaux,
Mais
etc.
c'est
Bien
normal.
sûr.
Ouais.
Mais c'est complètement normal. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas prendre pour argent comptant, mais c'est juste qu'effectivement, je trouve que ça a fait des dégâts parce qu'en fait, donc tu as ces personnes-là qui vendent leur formation, qui ont formé des personnes, ces personnes ont réussi grâce à ces formations et qui elles-mêmes sont nichées. Donc, tu as un espèce d'effet boule de
Ouais.
neige qui va se créer. Et en fait, tu laisses plus de place à la nuance et surtout, tu laisses plus de place au libre arbitre. Et en fait, dans ces cas-là, bah, on est tous formatés et on laisse tomber le kiff. Et ça, moi, c'est un truc que je mets en place avec mes clients. C'est l'échelle du kiff. Où est-ce que tu te places sur l'échelle du kiff? Parce qu'en fait, la niche, c'est certes bien aussi si tu veux augmenter ton CA ou je sais pas quoi, blablabla. Mais il y a aussi le côté où on en parlait tout à l'heure. Si par exemple, Tinguing se casse la gueule du jour au lendemain, qu'est-ce que tu fais? Mais si
Ouais.
du jour au lendemain, tu en as ras-le-bol aussi.
Oui.
Il y a ça à prendre en compte. En fait, le fait que quand tu crées ton entreprise, c'est pas non plus bah, pour trimer toute ta vie, bah, sinon voilà, autant ne pas le faire. Parce que déjà que c'est chiant de créer son entreprise parfois et que t'en chies quand même pas mal. Si en plus tu kiffes pas ce que tu fais parce que tu t'es enfermé dans une niche et que tu veux pas en sortir parce que tu te dis que tu vas pas réussir autrement, dommage.
Non, mais clairement. Et puis, en fait, il faut pas se nicher pour se nicher. Il faut se
Voilà, c'est
nicher
ça.
si vous avez une appétence vraiment, un truc de kiff de ouf, une
Bien
zone de
sûr.
kiff de malade, qu'il y a un marché dessus et que vous vous dites, franchement, ça me ferait kiffer de me placer là-dessus. Ben ok, mais aussi dites-vous, parce que moi j'en suis la preuve vivante, vous pouvez aussi en sortir. C'est-à-dire qu'un
C'est ça,
positionnement, une
rien
niche,
n'est
ça
définitif.
s'élargit, rien n'est définitif. Exactement, quand on est entrepreneur, on peut toujours s'adapter, changer, évoluer, etc. Et pour moi, ce qui est important, c'est pas tellement la niche. Au début, en tout cas, parce qu'on parle beaucoup, c'est souvent la question qu'on se pose au début, mais en réalité, la question du positionnement, on se la pose tout le temps. Hein. Je pense à n'importe quel moment, c'est juste qu'on l'a fait évoluer. Ce qui est important, avant tout, c'est de construire une offre, minimum, au moins une, qui fonctionne et qui va trouver son marché cible en face. Et pour
C'est
trouver
ça.
son marché cible en face, il n'y a pas obligé d'être spécialisé LinkedIn ou spécialiste TikTok, ou là je prends parce que c'est facile avec les réseaux sociaux
Ouais.
de trouver des niches. Mais je pense que on est d'accord là-dessus, donc ne vous faites pas avoir. Et surtout, moi je trouve qu'on se trouve aussi des fois, tu vois, je me balade sur Instagram et puis je tombe sur des bios Instagram qui me pètent en deux. C'est-à-dire que je vois rédacteur web pour les scorpions ascendant cancer, tu vois. Non, mais arrêtez, en fait. Non, mais je grossis,
Non.
évidemment, j'ai jamais vu ça.
Bah, bien sûr.
Mais en fait, ça me fait mal parce que c'est précisément à cause de ces discours-là qu'on se retrouve avec des gens qui ne savent tellement plus quoi faire pour sortir du lot, qui se retrouvent avec des niches complètement what the fuck qui n'existent pas.
C'est ça, genre rédacteur web pour les entreprises à impact dirigées par des femmes et nanana. Enfin, en fait, c'est ça. Et puis, pour le coup, si on peut répondre à une objection qui est oui, mais si jamais je ne suis pas nichée, je ne trouverai pas de clients parce que je vais parler à tout le monde. Non, encore une fois, en fait, dans ces cas-là, il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire ne pas partir de la personne, à partir de son besoin. Parce qu'encore une fois, en fait, si vous avez un besoin, il peut être commun. Si on prend un autre exemple que la communication, par exemple, si on prend un métier qui explose beaucoup en ce moment, pardon, ce sont les assistantes virtuelles externalisées. Donc, en gros, ce sont plutôt des gestionnaires administratives externalisées. La gestion administrative, il y a des freelances comme des SAS, comme des SA qui en ont besoin. Et donc, en fait, comment tu vas prendre le sujet? Tu vas pas prendre le sujet en disant, en fait, en parlant uniquement des freelances, tu vas juste parler du besoin de la délégation de la gestion administrative. Dans ces cas-là, trois possibilités là-dessus. J'ai pas le temps de le faire. Je n'aime pas le faire. J'ai pas les compétences pour le faire. Tout simplement. Trois points de douleur, trois solutions auxquelles, en fait, tu peux vendre. Et les trois points de douleur, le j'ai pas le temps de le faire, ça peut à la fois, concerner un solopreneur comme concerner un patron d'une très grosse boîte, en fait, et qui a déjà des gestionnaires administratifs, mais à qui il manque un bras en plus dans l'équipe, par exemple.
Finalement, tu donnes l'exemple que toi, tu prends quand t'as pas de niche, encore je vais remettre des guillemets, où tu pars des problématiques et clairement les problématiques que plusieurs cibles potentiellement ont, tu peux y répondre et tu peux le transmettre dans ta communication. C'est ça, hein, si je
C'est ça,
résume
tout à fait.
ton point de vue. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. On parlait tout à l'heure du personal branding, mine de rien, mais volontairement, je t'ai posé la question, OK, en fait, si on ne prend pas le personal branding, comment on fait concrètement pour,
Ouais.
tu vois, pas se nicher ou quoi ou qu'est-ce? Maintenant, si on part du personal branding, j'imagine que c'est ce que tu penses. Du coup, ma question va être mal posée, mais c'est pas grave. Est-ce que tu penses que le personal branding est indispensable justement pour sortir du lot?
C'est une bonne question parce que je suis pas sûre. En fait, ça dépend vachement parce que je suis quelqu'un d'extrêmement libertaire là-dessus. C'est que, évidemment, c'est un bon moyen. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Dans le sens où moi, j'ai fait vivre ma boîte pendant 3 ans sans en avoir besoin. Et puis, j'avais pas du tout à rougir de mon CA à l'époque. Hein. J'étais pas, et en plus, j'aurais pu continuer comme ça parce qu'en fait, pour être très honnête, j'étais au plafond de CA chaque année que tu as en micro-entreprise, donc à peu près 70 000 euros pendant 3 ans. Sans aucune prospection, sans aucune communication, juste par bouche à oreille et relationnel, etc., etc. C'est juste que moi, je voulais aller plus loin aussi. Et qu'en plus, voilà, étant d'une nature anxieuse, je voyais mon plus gros client qui allait se barrer. J'ai pas voulu attendre, j'ai pas eu le temps d'attendre. Je me suis dit, OK, je me lance, j'avais déjà commencé à considérer le truc, etc., etc. Après, pour le coup, il y a des entreprises qui fonctionnent très bien sans. Aujourd'hui, c'est un moyen qui est indéniable, notamment quand
C'est
on est
clair.
solopreneur, etc. Moi, je te dirais, si tu me poses la question, je te dirais pas que le personal branding est indispensable, je te dirais que tout d'abord, la communication est indispensable, plus que le personal branding. Là-dessus, effectivement, aujourd'hui, on est dans une guerre de l'attention. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de services, toujours plus de produits qui se mettent sur le marché. Il y en a tout autant qui, malheureusement, font un down aussi et ferment, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, moi, j'accompagne de très grosses entreprises, il faut le savoir. Hein. Et en fait, les très grosses entreprises, elles ont un vrai problème de rétention des talents. Et ces talents, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent leur CDI pour se lancer en free. Donc, ça fait d'autant plus de personnes ou lancer leur entreprise. Ça fait d'autant plus de personnes qui te lancent aussi. Et donc, là, moi, là-dessus, je dirais pas que le personal branding est indispensable. C'est un excellent moyen, mais on peut quand même, juste en communiquant aussi, sans passer, en communiquant et en prospectant, bien évidemment. Moi, je parle de ce que je connais parce que je suis pas une spécialiste de la prospection, pas du tout. Donc, je parle de ce que je connais en communication. Pour moi, en fait, c'est juste le. Et encore une fois, c'est l'immobilisme. Et c'est parce que moi, j'ai fait cette erreur-là que je préconise et que je dis que c'est indispensable. Mais l'immobilisme est très mauvais pour une entreprise. L'immobilisme, que ce soit sur la prospection, c'est-à-dire je ne prospecte pas, et sur la communication, c'est-à-dire je ne communique pas. Personnellement, j'ai fait vivre mon entreprise pendant 3 ans là-dessus, mais je suis arrivée à un plafond à un moment. J'avais un plafond de verre que j'arrivais pas à péter. Et en fait, peut-être que j'aurais si. Peut-être qu'à un moment, ça n'aurait plus suffi, en fait, le relationnel. Donc, il y a un moment aussi, il faut savoir se remettre en question. Donc, si tu veux, bon, pour reprendre la réponse à ta question, parce que ma spécialité, c'est également la digression, pour reprendre la réponse à ta question, j'estime pas que le personal branding est indispensable, c'est un excellent moyen, mais on peut faire autrement quand on n'a pas envie de se mettre en avant, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de se mettre en avant. Mais en revanche, si on prend la maison mère du personal branding, qui est la communication, j'estime oui que la communication est indispensable pour une entreprise, pour la survie d'une entreprise.
Ok, je vois la nuance que tu donnes. Si là, parmi les gens qui nous écoutent, il y a, et c'est même sûr, il y a des gens qui sont, a priori, qui te ressemblent plus, c'est-à-dire qui sont plus sur un positionnement généraliste, ce serait quoi les tips que tu donnerais pour développer son personal branding? Les quelques tips vraiment indispensables, tu vois, où tu te dis, genre, ça, si tu veux développer ton personal branding et que vraiment ça paye pour ton business, ce serait quoi?
Alors déjà, merci beaucoup parce que tu me fais penser qu'il faut que je finisse de rédiger ma newsletter de la semaine qui sera dédiée à ça et que j'ai complètement
Voilà.
zappé d'écrire hier. Donc par rapport à tout ça, donc alors pour moi les tips que je donnerais en personal branding, bah, premièrement ce serait de faire un travail d'introspection. C'est faire un travail d'introspection qu'on appelle le why, que tu fais dans tes accompagnements, que je fais aussi dans mes accompagnements bien sûr. C'est en fait se reposer des questions sur qui je suis. Par exemple, moi je pose souvent la question à mes clients leur disant: si on se croise dans une soirée networking, on ne s'est jamais rencontré, comment tu te présentes? Parce que tu en as certains qui vont être hyper succincts sur leur réponse et d'autres qui vont faire une réponse à rallonge, parce que être court à l'oral est difficile. Donc voilà. Et puis en plus, il y a des personnes qui ont tendance à dire, à rajouter et je fais ci, et je fais ça, etc. Voilà. Donc faire un petit travail d'introspection. Qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux retransmettre, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux pas dire, parce que pour le coup, le personal branding, c'est quand même vous mettre sur le devant de la scène. C'est pas sans conséquence. Donc il faut le savoir, que vous allez forcément faire face dans ces cas-là. Moi, c'est ce que j'ai à mes clients, c'est que quand on se met à prendre la parole sur Internet, on a toujours trois choses. Des gens qui seront d'accord avec nous, des gens qui seront pas d'accord avec nous, et des gens qui seront indifférents. Donc, il faut aussi savoir vous protéger. Donc, faire un point aussi sur ce que vous ne voulez pas dire, qu'est-ce qui reste de l'ordre du privé. Donc, il y a des choses comme ça à mettre en place. Voilà, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je ne veux pas dire, quels sont les sujets sur lesquels je veux prendre la parole, etc., etc. Donc, faire un petit travail d'introspection en un. Ensuite, faire un travail stratégique. Mes objectifs, pourquoi je prends la parole, et il faut être honnête là-dessus, hein, si vous avez envie d'augmenter votre CA, c'est pas une tare. Si vous avez envie de faire de l'influence, c'est pas une tare non plus. Donc juste créer des objectifs clairs, et ça vous permettra en fait de faire découler ensuite des actions de communication qui vous permettront de poursuivre ces objectifs. Définir aussi vos cibles ou les problématiques de vos cibles, hein, ça dépend si vous êtes niché ou pas. Donc si on n'est pas niché, on part plutôt du besoin commun de sa cible. Plus que par exemple, bah, je veux ne m'adresser qu'aux entreprises vertueuses écologiquement, par exemple. Donc ça, c'est pour la partie stratégie, donc cible, persona. Les thématiques à aborder aussi, on reprend son petit travail de why, et on fait un petit tableau en se disant, voilà, j'ai ces thématiques-là, il faut que je les aborde toutes. En fait, tout ça permet d'avoir un effet de visualisation à plat. Et donc de se dire, OK, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Parce qu'en fait, quand on est dans le flux tendu, bah, on a tendance à soit parler de toujours la même chose, toi de s'éparpiller. Donc c'est pour ça que le travail de stratégie est intéressant, parce que ça nous permet en fait de couvrir de manière holistique les objectifs qu'on va avoir, les cibles qu'on va avoir, etc., etc. Également, n'hésitez pas à identifier tout ce qui est vos points de différenciation. Qu'est-ce qui fait qu'on vous suivrait, vous? Tu vois, qu'est-ce qui ferait qu'on suivrait Pauline Sarda, parce qu'elle est Pauline Sarda et pas parce qu'elle est juste coach business, en fait. Pas juste parce qu'elle est à la tête de son entreprise de coaching business. Ok, je veux quelqu'un qui me parle de coaching business, mais je veux que ce soit Pauline. C'est là la différence dans le personal branding. C'est qu'on va vous suivre non pas pour le spécialiste de votre, pour le professionnel que vous êtes, mais parce que vous êtes le professionnel et la personne. Donc, important en fait de définir les axes de différenciation. Est-ce que ce sont, bah, je sais pas, des passions, des choses comme ça, etc., etc. Et après aussi identifier bien sûr les outils sur lesquels vous voulez lancer ce personal branding. Est-ce que c'est uniquement LinkedIn au départ? Est-ce que c'est vous voulez faire une newsletter aussi, etc., etc.
Super, bah écoute, merci pour cette réponse, ma foi, très systémique, qui nous a donné plein d'informations. Et d'ailleurs, moi, je pense vraiment que le personal branding, On parle beaucoup des réseaux sociaux, évidemment, parce que ce sont les outils principaux qu'on utilise aujourd'hui pour développer le personal branding, le faire rayonner, etc. Mais le personal branding, ça existe depuis la nuit des temps. Tu vois, moi, quand je vois... Enfin, vraiment, tu vois, par exemple, Steve Jobs, le gars
bien
a un
sûr,
personal
bah,
branding hyper fort. Et pourtant, enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Mais j'avais quand même une question à te poser là-dessus parce que je trouve que ça met potentiellement des fois pas mal de complexes aux entrepreneurs. Est-ce que, selon toi, il faut forcément, quand on développe son personal branding sur les réseaux sociaux, avoir un combat, avoir un message qui va nous servir à cliver?
Non, pour moi, en fait, et c'est là où, où j'ai l'air d'être assez vindicatif comme ça, mais la seule vindicte que j'ai, c'est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et en fait, si tu as un combat, vas-y. Si tu n'as pas de combat, voilà, tu ne vas pas t'en inventer, en fait. Et en fait, moi, c'est juste ça. Et moi, la principale chose pour laquelle je milite, c'est laisser les gens tranquilles. C'est-à-dire arrêter de foutre des injonctions.
Ouais.
Arrêter de foutre des injonctions dans tous les sens. Pour le coup, on peut donner des conseils, et des conseils de manière assez vive, en disant, bah voilà, si tu fais poste, il fonctionnera pas. Oui, fair enough. L'idée, c'est aussi de se servir des bonnes méthodes. En fait, encore une fois, tout est question de nuance. On peut avoir un
Ouais.
combat sans être agressif. On peut être agressif sans avoir de combat.
Absolument.
On peut avoir de l'attention sur les réseaux sociaux sans avoir de sujets clivants, etc. Après, moi, pour le coup, à part la niche qui est mon qui est mon combat de, en fait, de laisser les gens tranquilles, j'ai pas vraiment de combat, en fait. Pour le coup, oui, j'ai peut-être aussi le féminisme, hein, bien sûr, mais pour le coup, c'est peut-être plus que parce que je suis quelqu'un de franc et de direct, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans ma communication, donc c'est peut-être plus mon ton qui est clivant qu'autre chose. Mais non, en fait, pour le coup, il faut que en fait, pour moi, la principale caractéristique du personal branding, il faut que ça vous ressemble. Parce qu'en fait, si ça vous ressemble pas, bah alors déjà, premièrement, vous pouvez vous sentir travesti, donc on n'a pas envie de continuer quelque chose dans lequel on ne se sent pas dans nos baskets. Généralement, hein, ce qu'on fait, c'est que c'est pas qu'on ralentit ou qu'on rectifie, hein, c'est qu'on arrête complètement. Généralement, la réaction humaine face à un rejet comme ça, c'est d'arrêter complètement et de balayer sous le tapis. Donc, vous aurez fait tout ça pour rien. Donc, premièrement, c'est contre-productif. Et c'est contre-productif aussi pour vos prospects potentiels ou pour vos partenaires potentiels. C'est-à-dire qu'en fait, on voit passer quelqu'un sur les réseaux et en fait, quand on lui parle, elle n'est pas du tout la même personne. Ça peut être un effet déceptif. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que c'est virtuel que les résultats sont pas réels. Une réputation, ça se construit aussi en dehors d'Internet.
Ouais,
Donc,
complètement.
s'il y a des personnes, en fait, si vous êtes dans un mensonge éhonté de qui vous êtes et de ce que vous faites, etc., et que ça se sait, ça saura. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut faire. Il faut toujours privilégier le long terme au court terme. Donc, je préférerais, en fait, se dire que bah, moi, je n'ai pas de combat, je n'ai pas un ton très clivant, etc. Bah, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps. Peut-être qu'effectivement, vous ne ferez pas un post à 1000 likes sur LinkedIn, mais au moins, ce sera solide parce que ce sera vous entièrement, plutôt que de chercher en fait à aller flatter l'algo et à faire un buzz directement, etc. Aller chercher plutôt le long terme que le court terme, c'est beaucoup plus puissant, c'est moins sexy, mais c'est beaucoup plus puissant.
Écoute, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Ça me va parfaitement, mais à retenir, je pense, écoutez-vous d'abord, n'écoutez pas forcément les injonctions et surtout le travail d'introspection là dont tu as parlé. Pour moi, il est indispensable quand on se positionne en tant qu'entrepreneur, mais pas forcément que dans la prestation de service, tu vois. Ce travail d'introspection,
Oui, bien sûr.
il va vraiment vous servir à déterminer c'est quoi votre secret sauce, c'est quoi, comment
Ouais.
vous vous exprimez, qu'est-ce qui va faire la différence, etc. Et ça
Qu'est-ce qui me fait
aussi.
vibrer?
Ouais, exactement. Et c'est ça aussi qui va faire la différence, et pas seulement votre niche, si vous êtes niché ou pas. Donc, je pense qu'on peut terminer
C'est
là-dessus.
ça.
Dans tous les cas, vous retrouverez Juliette largement sur les réseaux sociaux. On va vous mettre les liens directement en description de l'épisode, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok aussi, et dans sa newsletter, il me semble, que j'ai à peu près
Ouais,
listé
exactement, bien joué,
partout
bravo.
où on peut te trouver. Donc, merci infiniment, Juliette, pour ton temps, et je te dis à très vite. Bye bye.
Bah, merci à toi, Pauline. Au revoir.
En complément de cet épisode, voici ce que j'aimerais te dire pour que tu puisses en retenir le meilleur. Tu n'es pas obligé de te nicher, mais il est par contre primordial de travailler sur ton positionnement et d'identifier le plus tôt possible ta secret sauce. Autrement dit, ce qui fait la différence dans ce que tu proposes. Ça peut être la manière de l'aborder ou ta méthode, par exemple. On a beau dire ce qu'on veut sur le personal branding, il n'est pas parfait, mais il a de grands avantages, particulièrement si tu es généraliste. Ce qui va d'autant plus faire la différence et te placer en top of mind, c'est ta personnalité, ton histoire et ta façon d'aborder les choses, alors ne lésine pas sur ce travail. Comme le dit Juliette dans l'épisode, si tu as du mal à déterminer une cible précise, alors pars des problématiques. Mais attention toutefois à une chose, si même en partant de ce principe-là, tu estimes que ton service peut s'adresser à tout le monde, il y a un gros problème, parce que tout le monde ne rencontre pas les problématiques auxquelles tu réponds. Et si tu en es persuadé, tu es persuadé que tout le monde, que toute la planète peut potentiellement avoir besoin de ton service, ça va poser un énorme problème à ton marketing et donc tu n'auras pas de résultat. Enfin, n'écoute pas les injonctions sur la niche. Niche-toi si et seulement si tu as une appétence pour un sujet en particulier, tu es bon dedans et qu'il y a un marché. Si au contraire, tu es plutôt du genre à toucher à plein de choses, que tu aimes la diversité, c'est peut-être pas la niche qu'il te faut. À noter aussi que la niche peut être une stratégie et qu'elle n'est pas irréversible. La preuve avec moi, où j'ai commencé stratégiquement nicher justement pour me faire une place, pour par la suite finalement m'élargir. J'espère que le parcours de Juliette t'a inspiré et surtout t'a montré que c'était possible de faire plein de choses aussi. Je te dis à très vite dans le prochain épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait, selon toi, besoin de l'écouter.